France Culture, Le Grand Tour, Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je me trouve ce soir en Anjou, dans l'ancienne abbaye royale de Fontevraud. Le lieu classé au patrimoine mondial de l'UNESCO a été transformé en centre culturel en 1975. Et depuis 2019, l'abbaye s'est lancée dans un programme de refonte des 6 cloches de son abbatiale qui avaient été retirées à la Révolution. Alors la 5e cloche est justement arrivée à l'abbaye il y a quelques jours, mais avant d'aller la voir, petit récapitulatif historique avec Julien Bertreux.
Alors je vous souhaite déjà la bienvenue ici donc au cœur de l'Anjou, puisqu'on est au sein de l'abbaye royale donc de Fontevraud, qui est une abbaye située à peu près une quinzaine de kilomètres de Saumur.
Est-ce que vous pourriez nous donner quelques repères historiques pour mieux comprendre l'abbaye ?
Alors la première date, c'est celle de sa fondation, fondation donc qui remonte à l'année 1101, donc qui est due à un fondateur en fait assez exceptionnel qui s'appelait Robert d'Arbrissel, qui est un prédicateur itinérant d'origine bretonne d'ailleurs, et qui a fondé ici une communauté double, c'est-à-dire qui va regrouper à la fois des moines et des moniales, mais du coup répartis en 4 monastères. Et disons que l'originalité en fait de cette communauté double, c'est qu'à l'époque, elle n'était pas dirigée par un homme, mais par une femme. Et on a eu donc 36 abbesses qui se sont succédées donc entre le XIIe siècle et la Révolution française. Dans chacun des 4 monastères, on retrouve finalement la configuration de base, à savoir une église, un cloître, un réfectoire, une cuisine et un dortoir. Donc l'ensemble monastique à la fin de l'Ancien Régime s'étend à peu près sur 45 hectares de domaine, et aujourd'hui on est sur 14 hectares pour à peu près 3 hectares de bâtiments. Ce qui fait que Fontevraud aujourd'hui c'est une des plus vastes cités monastiques d'Europe encore en place.
Et qu'est-ce qu'il advient de l'abbaye au moment de la Révolution française ?
C'est un changement effectivement radical, puisque à la Révolution, donc déjà on nationalise les biens du clergé pour renflouer les caisses de l'État. Et puis quelques mois plus tard, on va purement simplement en fait supprimer les vœux monastiques. Et la reconversion donc pour Fontevraud, en l'occurrence, ça sera sous la forme d'une prison. Et une prison qui va réinvestir la quasi-totalité donc du site, et y compris donc la grande église abbatiale que l'on va découvrir tout à l'heure.
À quel moment on prend conscience de l'intérêt architectural du lieu et donc de la nécessité de le restaurer ?
Alors l'intérêt architectural et patrimonial, il est déjà présent au XIXe siècle, puisque on a déjà l'intervention en fait de Prosper Mérimée qui est présent à Fontevraud en 1834 et qui va classer Fontevraud sur la première liste des monuments historiques en 1840. Après, les premières restaurations en tant que telles ne voient le jour qu'à partir du début du XXe siècle, à une époque où Fontevraud est encore une prison.
Et alors l'abbaye va servir de prison jusqu'en 1963, c'est bien ça ?
Alors en 1963, effectivement, c'est une année importante qui marque la fermeture de la centrale de Fontevraud. Dès la fermeture de la prison, très vite, il y a un choix et un parti pris qui consiste en fait à revenir à l'état monastique. C'est-à-dire qu'on va démolir systématiquement toutes les infrastructures créées à l'époque pénitentiaire. Et disons que la date importante pour Fontevraud, qui va déterminer sa vocation, on va dire, culturelle, c'est 1975. Fontevraud devient un centre culturel de rencontre qui s'appelle en l'occurrence le Centre culturel de l'Ouest, et qui va donc avoir effectivement une impulsion importante au niveau régional, et qui va devenir effectivement une scène culturelle en fait importante, et qui permet effectivement de valoriser en fait ce monument au cœur de l'Anjou. Alors là, on est donc descendu effectivement au sein même de l'abbatiale. Je parle de descendu parce que effectivement l'abbatiale, elle épouse complètement la topographie du lieu. Et c'est une abbatiale qui est déjà monumentale, avec un volume quand même assez conséquent, hein, puisque si on aime les chiffres, on est à une abbatiale qui s'étend sur près de 90 mètres de long, on a 16 mètres de large, et à hauteur des clés de voûte, on oscille autour d'une vingtaine de mètres. Les coupoles que l'on a au-dessus de nous, je dirais malheureusement, ne sont plus celles d'origine, puisque elles ont été en grande partie refaites en fait au début du XXe siècle à la suite des aménagements pénitentiaires qui avaient donc réinvesti donc l'intérieur de l'abbatiale, puisque durant la période pénitentiaire on va accueillir sur le site jusqu'à plus de 2000 détenus, et donc du coup les ingénieurs avaient optimisé au maximum les capacités d'accueil et en optimisant, en fait, dans le cas présent, le volume jusqu'à hauteur du faîtage, jusqu'à hauteur des charpentes. Donc les ingénieurs avaient purement et simplement arasé l'ensemble des coupoles pour créer donc 5 niveaux de plancher jusqu'à hauteur, en fait, des charpentes.
On voit là au centre de l'abbatiale des statues funéraires. Est-ce que vous pourriez nous dire de qui il s'agit ?
Alors, au milieu de la nef, on a mis en majesté effectivement 4 sculptures funéraires qui représentent effectivement les premiers donateurs de Fontevraud, avec des personnages quand même emblématiques. On pense en particulier donc au gisant d'Aliénor d'Aquitaine, qui a cette particularité d'avoir été reine de France, puis ensuite reine d'Angleterre.
Et on aperçoit aussi des statues contemporaines à différents endroits, dans l'abbatiale. Peut-être vous pourriez nous expliquer ce qu'elles font ici ?
Alors, l'art contemporain est au cœur, en fait, du projet également aussi de Fontevraud, effectivement. Et l'intérêt, en fait, de ces artistes, c'est qu'ils mettent en valeur, en fait, une lecture historique également, en fait, du lieu, puisque chaque production a un lien avec l'histoire du monument, alors, qui peut parfois peut-être un peu plus ténu. Et il y a un projet qui associe à la fois histoire et art contemporain, qui est un projet campanaire. Et Nicolas va pouvoir d'ailleurs nous en parler.
Bonjour. Donc, je suis Nicolas Dupont, je suis conservateur du patrimoine à l'abbaye royale de Fontevraud. Et en effet, je vais vous parler de ce projet majeur pour l'abbaye, qui est la recréation de cloches pour Fontevraud. Vous imaginez qu'à la Révolution, l'abbaye a été en effet pillée et les cloches ont été fondues pour en faire de la menue monnaie. Et il y a maintenant 5 ans, Emmanuel Morin, le directeur artistique de cette abbaye, a eu cette intuition géniale de se dire, mais finalement, dans cette abbaye, il manque quelque chose, il manque le son. Et ce son, il était essentiel puisqu'il rythmait tout simplement la vie démoniale et des frères. C'est un projet très intéressant qui, pour moi, est vraiment le symbole de ce que doit être Fontevraud, d'allier à la fois l'histoire, les métiers d'art, puisqu'on a travaillé avec une fonderie Corny-Avard qui est située à Villedieu-les-Poêles, pas très loin du Mont Saint-Michel. Et chaque année, on confie le design de la cloche à un artiste différent. Et ces cloches, on les a présentées à l'arrière de l'église abbatiale, au-delà du chevet, sur une colline, sur un promontoire. Et le visiteur peut finalement redécouvrir pour l'instant 5 des 6 cloches. Et chaque cloche porte un nom qui illustre un des grands personnages de cette abbaye.
Est-ce qu'il est prévu, à terme, que les cloches rejoignent le beffroi de l'abbatiale ?
Non. Dans la chambre des cloches, c'est vrai qu'on est, sur un clocher qui est déjà très ancien. Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer, mais les cloches en mouvement, c'est plusieurs dizaines de tonnes qui sont en mouvement, donc avec aussi un effet cinétique, qui pourrait quand même fragiliser aussi le clocher.
Alors même si ces cloches ne sont pas installées dans le beffroi, est-ce qu'on peut quand même les entendre sonner ?
Oui, bien sûr. Donc elles sont installées à l'extérieur. Elles sont entourées d'un dispositif qui est un abat-son, hein, comme il y a dans les clochers. Et en effet, elles sonnent et je dirais on a été même plus loin, puisque chaque année, un compositeur est invité à composer une sonnerie spécialement pour Fontevraud.
On se trouve dans les jardins de l'abbaye, on est juste à côté de la dernière cloche. C'est la dernière cloche qui vient d'arriver, c'est bien ça ?
Oui, j'irai en effet, c'est la dernière née. Elle s'appelle, comme je disais tout à l'heure, Julie, du nom de Julie Dantin, la dernière abbesse de Fontevraud. C'est la plus petite des cloches de Fontevraud, elle ne pèse que 610 kg. Et elle a un décor très précieux qui évoque justement le train de vie aussi de ces dernières abbesses de l'ancien régime, où il faut s'imaginer qu'à Fontevraud est devenu une sorte d'annexe presque de la cour de Versailles. Ce qui est agréable aussi pour le visiteur, c'est vraiment de toucher la matière. Et puis, on a rarement l'occasion de toucher aussi une cloche en mouvement. C'est-à-dire que quand le marteau a teinté la cloche, le visiteur peut apposer ses mains sur le bronze et sentir la vibration qui est finalement la vibration du son. Et ça, c'est vraiment une expérience, je dirais, quasiment unique qui se fait à Fontevraud.
Suite du Grand Tour, demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, direction Roubaix, à la piscine, pour visiter l'exposition Les Enfants Impressionnistes. Et merci à Marceau Vassy pour la prise de son.
Et merci à vous, Marie, qu'on retrouve demain.